Frères et sœurs, la contemplation de la crèche avec Saint Joseph, la Vierge Marie penchée sur l'enfant Jésus donne une image paisible de la famille. Un papa, une maman, un enfant dans un silence recueilli et aimant. Il semble que nous posions les yeux sur une réalité à la fois simple et profonde. Pourtant, la Sainte Famille n'a que l'apparence de la simplicité. Elle n'est pas une famille ordinaire que l'on aurait choisie pour en faire un modèle de société. La Sainte Famille offre au regard une réalité complexe, en fait. Saint Joseph est-il vraiment l'époux de la Vierge Marie, puisqu'il n'a pas de relation sexuelle avec elle? Saint Joseph peut-il être appelé le Père de Jésus, lui qui n'est pas intervenu dans sa conception? Certains, avec un esprit provocateur et outrancier, prétendent même que la Sainte Famille serait la première famille recomposée. Je voudrais aborder ces questions avec vous pour découvrir comment la Sainte Famille est bien un modèle qui éclaire la réalité de nos liens familiaux aujourd'hui. Et peut-être comment même elle est un roc sur lequel s'appuyer pour retrouver du sens et des repères. Car notre époque, caractérisée par les aspirations d'un individualisme forcené et de pair avec les possibilités modernes de manipulation du corps humain en matière de fécondité, notre époque moderne a jeté une grande confusion sur ce que l'on peut nommer famille. Le premier point que l'on peut relever est un choix de Dieu. La Sainte Famille manifeste le choix de Dieu qu'un enfant grandisse avec un père et une mère. À Joseph qui voulait s'écarter, par peur peut-être d'apparaître un rival de Dieu, à Saint Joseph qui voulait s'écarter, ne serait-ce qu'en secret, en répudiant Marie, l'ange fut envoyé pour qu'il ne craignît pas de prendre chez lui l'enfant et Marie, dont l'ange confirma qu'elle était bien son épouse. Il n'avait pas à y renoncer. Jésus, le Verbe fait chair, va donc grandir entouré d'un père et d'une mère. Et l'ange intervient pour que cela se produise bien. Le signe est confirmé que la naissance et la croissance d'un enfant impliquent les deux parties de l'humanité, mâle et femelle, homme et femme, unis de façon indissoluble. Ils sont impliqués et collaborent avec Dieu pour la génération et l'éducation d'une vie nouvelle. Ils transmettent à l'enfant et éveillent sa nature humaine, dont l'âme immortelle est produite par Dieu. Dieu est spécifiquement intervenu par le message de l'ange à Joseph pour qu'il en soit ainsi. On met en avant cette union particulière de l'homme et de la femme qui s'ouvre à la vie nouvelle. Aucune autre association entre des êtres humains ne porte en elle cette capacité, donner la vie. Deux hommes entre eux ou deux femmes entre elles peuvent être féconds potentiellement, peuvent être en pleine santé, mais l'un avec l'autre ne seront pas féconds, ne laisseront pas la vie jaillir. La réalité de cette capacité dans la rencontre de l'homme et de la femme et l'absence de cette capacité dans les autres associations humaines justifie au sein de la société un statut propre, le mariage. En dehors de cette union de l'homme et de la femme, utiliser le terme de mariage est un mensonge, au mieux une erreur grave, et affaiblit notre appréhension de la réalité. Assurément, des amitiés très profondes peuvent exister entre des êtres humains, avec même une vraie charité, mais ce ne sera jamais la réalité du mariage qui désigne spécifiquement cette union stable d'un homme et d'une femme, ouverte à la génération et à l'éducation des enfants. C'est le premier point que permet de rappeler la Sainte Famille, avec cette intervention spécifique pour que Joseph et Marie entourent la croissance de l'enfant Jésus. Le deuxième point qui éclaire notre réalité va être à la fois le signe de la mère et le signe du père. La mère, comme la Vierge Marie est celle qui a porté et mis au monde l'enfant après l'avoir conçu dans son sein. Et donc, elle récuse la confusion qu'introduit la soi-disant mère porteuse au cœur de cette réalité qui doit être l'émergence de la vie. La mère est celle qui fait don de son corps pour l'émergence de cette vie, un don qui est un accueil, l'accueil d'un don de Dieu espéré avec son mari. L'embryon n'est pas un virus, n'est pas un alien qui nous agresserait et dont il pourrait être légitime de se débarrasser. La femme, la mère qui fait le don de son corps, fait d'ailleurs un don qui est onéreux, qui coûte, et il est juste de le remarquer. Parce que la femme fait d'une part le don de ses formes de jeune fille, qu'elle ne retrouvera vraisemblablement pas après l'accouchement, mais elle fait le don de son corps en prenant même un risque pour sa vie. Souvenons-nous qu'au début du XXe siècle, ou plutôt encore à la fin du XIXe siècle, une femme sur quatre mourait en couche. La femme fait don de son corps, prend un risque pour sa vie, au-delà de la douleur que l'on peut mieux soulager de nos jours. Eh bien, il y a donc un rapport charnel qui est affirmé. La mère manifeste cette grandeur du don de la chair, partie intégrante de l'être humain, dans l'apparition de la vie humaine, et il n'est pas neutre de savoir que notre vie, à chacun d'entre nous, vient de ce don. Par amour pour toi, j'ai fait don de ma chair. Dans le temps, je t'ai porté 9 mois, j'ai pris ce risque de l'accouchement. Ce n'est pas un don qui serait simplement imaginé, c'est un don qui a été vécu. Et quand on prend conscience de ce don vécu jusqu'au bout de notre chair, on peut comprendre combien notre vie est précieuse. On a ce signe, et cette, j'allais dire, peut naître de ce signe, fierté et responsabilité. La mère donne ce signe du don dans la chair, un don dont l'enfant peut être fier et dont il est appelé à être responsable de cette chair qui a demandé un tel don. Le signe du Père. Le signe du Père vient compléter celui de la mère. Alors vous me direz, mais est-ce qu'on peut dire que Joseph est vraiment le Père de Jésus? Si vous avez fait attention au texte de l'Évangile, vous vous êtes rendu compte que par deux fois, on va dire le Père et la Mère de l'enfant, le narrateur dit cela, et dans la Bible, il y a un principe de lecture, le narrateur est fiable, il est vrai et il est fiable, il ne ment pas, il ne se trompe pas. On désigne donc bien Joseph comme le Père de Jésus, alors même que l'on a précisé tout aussi clairement que l'enfant est né de l'Esprit Saint et que Joseph n'est pas intervenu dans la conception de l'enfant charnellement. On désigne bien Joseph comme le père de l'enfant. Alors il faudra expliquer cela. Une première partie de l'explication, c'est que dans l'Antiquité juive, est père celui qui reconnaît l'enfant. Être père, c'est un geste politique, au sens politique de vie de la cité. C'est celui qui, devant l'ensemble de la communauté, dit « cet enfant est le mien ». Il reconnaît cet enfant comme le sien, il lui donne son nom, il lui donne sa lignée. Cet enfant est reconnu. C'est un geste aussi de confiance vis-à-vis de la mère. Elle sait de qui est l'enfant, le père a confiance dans ce que la mère lui a dit, dans ce que son épouse lui a dit. Il y a un geste, il y a une parole qui reconnaît l'enfant. Et il y a une chose aussi importante, du coup, qui vient nous rappeler, du coup, que la parenté, ce n'est pas simplement un geste charnel, la parenté, c'est aussi une dimension de parole, de communication, d'éducation. Et d'ailleurs, c'est une chose un peu naturelle que l'on découvre quand on regarde un enfant. Je voulais dire, l'une des grandes activités de la famille, c'est de voir à qui il ressemble. Et ça, tout au long de sa croissance. Alors on regarde, il a le nez de son papa, il a les yeux de sa maman, il a les doigts de sa grand-mère, il a les orteils de son grand-père. On regarde charnellement ces éléments qui le lient à sa lignée. Mais pas seulement charnellement, on voit aussi comment un enfant réagit et ses réactions, justement, sont empruntées à son père, sont empruntées à sa mère. Quand il est embarrassé, il se frotte la main peut-être sur le front comme son père. Lorsqu'il a peur, il rentre la tête dans le cou comme peut-être fait sa mère. Ces expressions sont issues de son père et de sa mère. Ce n'est pas seulement charnellement, mais c'est jusque dans les expressions, dans le comportement, que l'enfant hérite de ses parents. Alors, le père vient donner ce signe de cette parole qui complète le signe de la mère. Mais revenons à cette question, est-ce que on peut considérer Joseph comme le père de Jésus, en sachant qu'il n'en est pas le géniteur? Cela nous oblige à nous pencher un instant sur la réalité de l'amour. La réalité de l'amour, ce n'est pas une réalité qui serait distincte de Dieu. Saint Jean nous le révèle dans sa première épître en disant « Dieu est amour ». C'est vraiment une chose importante parce que souvent nous aurions envie de dire « L'amour est une réalité extérieure, nous aimons et Dieu aussi aime ». La révélation nous dit « Dieu est amour ». La vérité de l'amour, c'est Dieu lui-même. Si vous voulez savoir ce que c'est l'amour, c'est la vie de Dieu. Et plus précisément même, l'amour du Père et du Fils, c'est une personne, c'est l'Esprit Saint. Donc, aimer, en fait, c'est participer à l'élan de l'Esprit Saint. Aimer, la réalité de l'amour, c'est de participer à l'élan de l'Esprit Saint. Et au sein d'un couple, l'union conjugale va être la manifestation de cet élan de l'Esprit Saint qui est vécu entre les époux. La dignité de l'acte conjugal, c'est d'être la manifestation de l'élan de l'Esprit Saint entre les époux. Souvent, notre société veut réduire l'amour à ce que j'appellerais un appétit. On l'a dans notre langage courant. J'aime le chocolat. Le loup aussi, il aime beaucoup l'agneau, mais l'agneau s'en trouve pas très bien après de cet amour du loup. Le terme d'amour doit être précisé, la vérité de l'amour, c'est l'élan de l'Esprit Saint. Et donc, l'acte conjugal trouve sa vérité quand il est manifestation de cet élan de l'amour. Mais voyons donc alors cette chose-là entre Joseph et Marie. Cet élan de l'amour, cet élan de l'Esprit Saint est présent entre eux, et c'est bien l'Esprit Saint qui a fécondé la Vierge Marie, qui a fait jaillir en elle la vie de l'enfant Jésus. Donc Joseph participe à cette action de l'Esprit Saint en Marie, par cet élan qui le lie, par la vérité de son amour pour elle. Mais on va dire, mais il n'y a pas la manifestation de l'acte conjugal. Eh bien, prenons peut-être une image pour comprendre qu'une réalité peut exister sans forcément la manifestation. Ça nous est tous arrivé les jours de soleil, alors c'est pas aujourd'hui que je peux prendre l'exemple directement sur nos vitraux, mais de voir des rayons de soleil traverser une pièce. En fait, on ne voit pas les rayons de soleil directement. On voit le soleil sur les petites poussières qui sont en suspension dans l'air. Et s'il n'y a pas de petites poussières, en fait, on ne voit pas les rayons du soleil. Pourtant, ils sont là. Les petites poussières permettent de manifester la présence des rayons du soleil. Mais la présence des rayons du soleil ne dépend pas de ces petites poussières qui permettent la manifestation. La réalité de cet élan de l'Esprit Saint que vit Joseph, que vivent Joseph et Marie, rejoignent l'action particulière de l'Esprit Saint qui fait jaillir la vie de Jésus en Marie. Mais si elle n'est pas manifestée par un acte conjugal, la réalité de l'action de l'amour est pourtant bien là. Je voudrais dire une dernière chose. Je suis désolé, je suis trop long et je vois que vous fatiguez. Mais je voudrais évoquer un dernier point. La Sainte Famille est encore une école d'humilité. Comment cela ? Jésus est sans péché. La Vierge Marie est Immaculée Conception et est fidèle à cela, sans péché. Joseph est marqué par le péché originel. C'est une réalité de cette Sainte Famille. On pourrait vouloir regarder Joseph comme le maillon faible, il pourrait vouloir se regarder comme le maillon faible, même si à l'époque il n'avait pas de manuel de théologie pour lui préciser le caractère sans péché de Marie et de Jésus. Mais nous disent les évangiles, Joseph était un homme juste, donc capable de voir et de reconnaître ses erreurs, capable de reconnaître aussi la grâce que Dieu fait à son peuple, la grâce dont son peuple a et aura besoin jusqu'au ciel, et même toujours pour être participant de la vie divine. Joseph a réussi à mater l'orgueil qui nous rend insupportable de devoir demander pardon encore et encore, de découvrir que nous avons à nous convertir encore et encore, jour après jour. Saint Joseph a confiance qu'il est aimé de Dieu gratuitement, du Dieu qui fait miséricorde pour que nous puissions demeurer et vivre de l'Alliance. Et donc il n'a pas peur de vivre sans cesse de la miséricorde. Il ne se décourage pas, il ne se croit pas misérable, il ne croit pas non plus, ce serait une fausse peur, que Marie et Jésus le regarderaient comme misérable, indigne d'amour et de respect. La Sainte Famille est pour nous, pour nos familles, pour nos rapports entre nous, une école d'humilité, jusqu'à Jésus qui leur est soumis et qui grandit sous leur garde. À l'école de la Sainte Famille, nous pouvons vivre cette humilité de savoir que nous avons besoin, jour après jour, nous qui sommes marqués par la blessure du péché, de la miséricorde, et nous n'en sommes pas découragés. En cette année de Saint Joseph que notre pape François a déclaré, confions nos familles, confions-nous à l'intercession de Saint Joseph. Apprenons à la fois à expliquer l'importance de la famille et sa spécificité à nos enfants, à notre société. Apprenons aussi à vivre dans l'humilité pour sans cesse renouveler notre alliance les uns envers les autres, envers Dieu, dans la miséricorde. Amen.